au plaisir d'insolence.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
L'émission qui prend le temps de parler littérature.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Au plaisir d'insolence, aujourd'hui, Elisabeth Antebi donc reçoit Michel Déon pour l'émission qui prend le temps de parler littérature. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une drôle de littérature.
D'André Breton, par Salvador Dali. Tant et tant d'intransigeance pour une si petite déchéance. Ou à propos d'Aragon, tant et tant d'arrivisme pour si peu d'arrivage.
Voilà, alors donc, il y a du Dali et du Déon, si j'ose m'exprimer ainsi, car nous allons parler à partir d'un livre qui vient de paraître et qui est un drôle de livre, qui je crois est une affaire de famille, puisque ça a été mis en page, mis en train et mis en demeure par votre propre fille Alice. Hein, à la table ronde.
Oui, c'est elle l'éditeur.
Voilà, Alice Déon, qui est donc à la table ronde. C'est titré Salvador Dali. Le titre, c'est Les Sputnik di Paobre. Là, je prends l'accent catalan, n'est-ce pas, monsieur Déon?
Oui.
Suivi de Dali et les éditions de la table ronde. Alors, le vrai sujet, ça serait plutôt Dali et les éditions de la table ronde. Et c'est aussi le Dali de Déon, le Déon de Dali. On ne sait plus très bien lequel des deux a créé l'autre. Alors, racontez-moi d'abord la part de Déon qu'il y a dans Dali ou la part de Dali qu'il y a en Déon. Vous vous êtes rencontrés en 51, je crois, déjà.
Nous étions rencontrés d'abord à New York où je vivais à cette époque-là et nous avons à peine échangé quelques mots. Il était interviewé par des journalistes américains à l'Hôtel Pierre à New York et... Là, tout d'un coup, il m'a ému parce que j'ai senti une certaine volonté de le ridiculiser, n'est-ce pas? Et je pensais, c'est pas un homme à ridiculiser, mais pas du tout. En fait, cette réunion a été un petit peu décevante, mais elle m'a rapproché de lui et plutôt irrité contre les mœurs de la presse américaine. Et puis, je suis revenu vivre en France au printemps de 51. Et la première chose qu'on m'a proposée à ce moment-là, on m'a dit, est-ce que vous voudriez voir un petit peu organiser un manuscrit de Dali qui s'appelle La vie secrète de Salvador Dali par Salvador Dali. C'est un livre à lui qui a été publié aux États-Unis en anglais, mais c'est un livre de 600 pages et dans lequel il faudrait pouvoir faire quelques arrangements. Et nous avons là le manuscrit original. Alors j'ai regardé ça, l'homme qui me proposait ça c'était Charles Ringo, j'ai regardé ça le premier soir, il me l'a donné, le lendemain, Dali était à Neuilly chez Arturo Lopez, et je suis allé le voir avec...
Alors attendez, là, oui. Première insolence, ça s'appelle Au plaisir d'insolence, hein, oui. Notre émission. Alors l'insolence de Michel Déon, bien entendu, sur cet Arturo Lopez, parce que il faut raconter que l'œil de Michel Déon est là en permanence, puisque vous avez publié vous-même Voyage à Vancouver, hein, qui est un livre où vous parlez aussi de votre rencontre avec Dali, précisément.
En fait, le Voyage à Vancouver, c'est un chapitre d'un livre qui s'appelle Pages françaises.
Ah oui, c'est vrai. Mmh. Oui. Alors, donc, dans ces pages françaises, vous publiez un merveilleux portrait de Lopez, donc chez qui habite Dali, à Neuilly. Et permettez d'en citer quelques lignes parce que je les trouve vraiment savoureuses. Et c'est un Déon qu'on découvre parce qu'on connaît l'homme des poneys sauvages, on connaît l'homme du taxi mauve, on connaît le mauve, on connaît l'homme tranquille et l'homme plein d'humour, mais d'un humour un peu british pour un Irlandais, si j'ose dire. Là, c'est tout à fait différent. Alors, je lis. Dali résidait pour quelques jours à Neuilly dans l'hôtel particulier d'Arturo Lopez, chilien enrichi dans le guano ou le cuivre, je ne sais plus, fou de l'époque Louis XIV et qui, je le crains, se prenait sur son tas de caca d'oiseau pour une sorte de roi soleil sud-américain, conforté dans cette ambition par l'encens et la servilité d'une petite société parisienne que son argent fascinait. Je l'avais vu à un dîner, saoul, éructant, son visage poupin menacé par l'apoplexie, gominé comme un danseur mondain, se faisant servir un armagnat dans un verre ballon, le buvant d'un trait et pissant aussitôt dans le verre vide avant de le rendre au maître d'hôtel estomaqué. Il y a toujours dans la vie des gifles qu'on regrette de n'avoir pas distribuées. Voilà le parrain de votre rencontre, si on ose dire.
Il n'en était pas le mécène, mais enfin, il lui offrait l'hospitalité dans une maison très belle où, vous savez, les fauteuils, il y avait des tapisseries et il y avait un L majuscule comme pour Louis XIV. C'était le L de Lopez, mais la confusion s'arrêtait là.
Et un cacatoès, comme pour la Pompadour.
Aussi, probablement.
Bon, donc vous rencontrez Dali, mais là, je voudrais déjà souligner que nous avons un livre à tiroir permanent, parce que je viens de lire Michel Déon, et c'est lui qu'on lit beaucoup au fil des pages, c'est quand même vous qu'on lit beaucoup au fil des pages, et c'est un livre vraiment très étrange, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce livre, de quoi il était question, non pas parce que c'est compliqué, c'est au contraire éminemment clair, mais c'est tellement un jeu de miroir, et un jeu tout court, et un assaut d'humour et de bonne humeur avec Dali, que c'est un bonheur auquel, au début, on hésite à se livrer. Et je crois qu'on peut s'y livrer totalement. Voilà. C'est un livre joyeux, j'ai l'impression.
Oui, parce que mes rencontres avec lui ont très vite été joyeuses. Enfin, d'abord, je suis, après un premier essai de mise en français, pas du journal d'un génie, mais de la vie secrète, j'ai commencé à aller à Cadaqués, où il avait sa maison. Et là, nous nous sommes toujours fort bien entendus. D'abord, parce qu'il n'y avait personne pour nous déranger. Quand j'arrivais, sa femme s'en allait pêcher avec des jeunes pêcheurs du coin. Et je passais des soirée absolument inouïe avec lui, très très drôle, qui commençait toute par un détail qui va vous amuser, car il savait que ça me faisait inévitablement rire. Il passait un disque qui était un concert de paix.
De paix, PETS.
Et par un pétomane très connu des années 1910 qu'on entendait, paraît-il, à l'Alcazar et qui soufflait des bougies en même temps. Là, après cette bonne mise en train, il y avait aujourd'hui des petites langoustes, un très bon vin, et puis on parlait toute la nuit, ou une grande partie de la nuit, avec beaucoup de gaieté et de simplicité. Et là, vraiment, j'ai développé pour lui vraiment une affection véritable, et je pensais que c'était aussi quelqu'un qu'il fallait protéger, beaucoup plus qu'on ne le pensait, malgré son agressivité, malgré ses paroles très sèches et très dures, quelquefois, pas avec moi, mais avec des gens qui ne le comprenaient pas. Et je pensais que c'était quelqu'un, au fond, de timide. C'était un timide, et comme tous les timides, il jouait la comédie de l'homme qui n'a absolument aucune timidité et qui est violent. Mais il n'était absolument pas, je peux vous garantir.
Et ce qui vous attendrit dès le départ, si j'ai bien compris, c'est ses moustaches.
Alors là, les moustaches, là c'est très amusant parce que les moustaches à Paris, elles étaient cirées et elles pointaient vers le ciel assez haut, presque jusqu'aux yeux. Et ça c'était un travail du matin qui devait lui prendre assez de temps, enfin ça j'ai jamais eu de précision là-dessus. Mais à Cadaqués, les moustaches retombaient parce que non pas qu'ils se baignaient, je crois pas qu'ils se baignaient beaucoup. En tout cas, je l'ai jamais vu nager. Peut-être qu'il ne savait-il pas nager, d'ailleurs c'est très possible. Elle retombait, c'était beaucoup plus calme, il n'en avait pas besoin.
Mais vous dites que ça lui servait de barricade, en fait, que à cause de cela. Oui, vous dites une chose très intéressante. Vous dites que la provocation a des modes, comme tout, que l'insolence, donc, dont nous la targuons, est une mode aussi, et qu'il était provocateur en 1920-1930, mais que dans les années 50, puisque ça se passe dans les années 50, ces provocations des années 30 retombaient à plat, qu'il fallait trouver autre chose, et qu'il a donc trouvé le fait d'être catholique romain et monarchiste, ce qui était très provoquant à l'époque, et que d'aimer Meissonnier et non plus les peintures surréalistes, et il faisait passer tout cela, dites-vous, à coups de moustache.
Peut-être pas un coup de moustache. Non, il le faisait passer parce que c'est un grand peintre aussi et qu'il a fait des. C'est une époque où il a fait de grands et de très très beaux tableaux. Et c'est la période où il a fait aussi des tableaux religieux qui sont d'ailleurs au Vatican.
Oui, le Christ de.
Non, l'Ascension. Oui. Et non, y compris beaucoup de choses très très belles. Et c'est au Vatican maintenant. Il les a donnés ou on les a achetés pour le Vatican. Je ne peux pas vous dire. Mais puisque vous parliez de moustache, je voulais vous dire qu'il les a conservés jusqu'à son entrée à l'Académie des Beaux-Arts, où il a été nommé membre associé étranger.
En 79, associé. Je crois.
En 79, probablement, voilà. Oui, parce que moi, j'étais déjà à l'Académie française. Et je me souviens, je suis allé le voir. Vous savez, généralement, les académies ne se mélangent pas beaucoup. Et là, je me suis dit, non, mon cher Dali, je vais aller le voir comment il sortit. J'étais là en civil, pas en costume. Et lui, il s'était fait faire un très beau costume, ce qu'on ne fait jamais, d'ailleurs, pour un membre associé de l'étranger. Et il fait un très beau costume. Et je l'ai vu au milieu de tous ces autres beaux costumes, des peintres, notamment tout près de son ami Labisse, qui avait beaucoup fait pour son élection, et de plusieurs. Et tout d'un coup, il me voit, et il était un peu effrayé dans tout ça. Et tout d'un coup, il me voit et son œil étincelle, tout ça. Alors, je vais vers lui, et puis je voulais faire ce que nous faisions toujours en Espagne, un abrazo, vous savez, comme ça. Et j'ai vu qu'il avait peur de casser sa moustache, n'est-ce pas? Alors je lui ai dit, écoutez, Salvador, maintenant, c'est le moment de la couper. Vous avez moqué de tout le monde avec ces moustaches-là, mais aujourd'hui, c'est fini. Ce sont des imbéciles, ils n'ont pas compris qui vous étiez. Alors là, il a eu un petit sursaut et puis la séance a commencé. Il a été reçu, je crois, par Tony Aubin, chef d'orchestre et compositeur, un homme tout à fait remarquable, et qui a fait un discours très joli, très bien, mais dans lequel j'ai remarqué beaucoup de choses de moi. Et c'était assez amusant parce qu'il était là très sagement à écouter son éloge. Et puis après ça, on lui a dit que c'était à lui de parler. Il n'avait rien préparé. Et il a beaucoup bafouillé. Mais il a parlé de Gala, de sa femme qui était là au premier
rang. Que vous n'aimez pas beaucoup, vous, hein? Vous avez dit que c'était comme les couples Elsa et Aragon.
Ah, ça, non, tout c'est ça, pas, c'est... non, je crois qu'il n'y a pas de comparaison avec ça. Non, non. Mais elle, c'était une femme très puissante, très intelligente, avec un regard assez troublant, presque un regard de médium, mais belle, très belle stature, un visage dur comme ça, et sûrement une femme très intelligente, avec laquelle je me suis entendu. Mais je me méfiais toujours un tout petit peu, comme elle se méfiait de tout le monde. Vous sortiez de l'atelier de Dali, c'est tout juste si elle ne vous fouillait pas pour voir si vous n'avez pas donné un dessin, si vous n'aviez pas pris quelque chose. Et là, tout d'un coup, Dali devait faire un discours de remerciement, n'est-ce pas, pour... Et là, il a bafouillé. Et il a voulu soulever son épée. C'est une épée qui était dessinée par lui et qui devait peser 20 kilos, quelque chose comme ça. Il n'a pas pu, il n'avait pas la force. Et c'est un huissier, dont je garde le souvenir car c'est un huissier battant de l'Institut, qui a pris l'épée et qui l'a soulevée à grand peine et qui l'a montrée au public. Et voilà, et puis ça s'est terminé comme ça. C'était un peu... après le très bon discours de Tony Aubin, c'était un petit peu malheureux, c'est un peu foireux, disons.
Alors, il y a toujours ce ton, ce qui est très touchant chez vous, Michel Déon, et qu'on découvre. Enfin, on sait que vous avez du cœur et on sait que combien vous aimez les gens hors du commun. Mais on vous connaît mieux pour votre amour des paysages, au fond, et des lieux. Et là, moi, j'ai découvert, alors peut-être ne suis-je pas une exégète de l'œuvre de Michel Déon, mais là, on découvre quelqu'un qui, c'est un livre très émouvant, finalement. Parce qu'un dialogue que traduisent très bien, je ne sais pas, ça doit être votre fille qui a aidé la mise en page, puisque beaucoup de documents viennent de vous. Et je trouve ça admirablement fait, parce que on sent à travers les photos et les images des livres et des caractères écrits, enfin de la typographie, et même du caractère écrit, enfin de l'écriture, on sent votre échange, on comprend votre échange. Et il est assez rare, même dans la couleur du papier, des couleurs choisies, on sent le dialogue entre vous, rien qu'à la graphologie, on sent à la fois la tendresse et le rapport à la fois tendre, exaspéré chez vous parfois, chez Dali aussi d'ailleurs, de temps en temps, et le rapport de protection que vous l'avez dit, et alors ça, c'est, on le ressent quand vous parlez de l'élection de Dali, on ressent toujours un rapport de protection, d'émotion, cet homme vous émeut et vous agace à la fois, et surtout, et alors là, c'est une découverte, vous parlez du peintre, mais vous parlez de l'écrivain. Vous dites vous-même que finalement, Dali écrit, que vous adaptez, que vous réécrivez, que vous, nécessairement, Michel Léon est là, mais qu'il y a quand même un substrat qui existe d'écrivain, avec des images incroyables, avec des phrases, des néologismes, etc., et que vous ne partez pas de rien, vous ne créez pas votre Dali.
Non, je crois que c'était, en fait, je suis tout à fait de votre accord, c'était un écrivain. Bon, il fallait peut-être la forme, et le fait qu'il a beaucoup vécu en France, que la France a été sa grande émotion, que chez ses parents, on parlait toujours français, vous savez, les enfants, c'était des pays dans lesquels on disait à table, les enfants parlent français. Et donc, il avait vraiment un bon substrat, là. C'était bien parti depuis l'enfance. Mais simplement, le catalan chez lui l'emportait parfois sur le castillan.
Et vous dites ce qui est une très belle expression, qu'il écrivait avec l'accent catalan.
Oui, l'accent catalan, qui est un peu différent, qui est beaucoup plus marqué que l'accent castillan. Et vraiment, il y avait quelque chose de très fort. Il y avait quelque chose d'un écrivain, sans l'ombre d'un doute. Et c'est ce que j'ai essayé de conserver, tout en le clarifiant un tout petit peu, parce qu'il y avait beaucoup de confusion, et puis qu'il n'était pas homme à s'attarder sur un manuscrit comme il s'attardait sur un tableau. Et ça, je crois que là, je ne l'ai pas trahi. Je ne l'ai pas trahi non plus en coupant, parfois, dans ces digressions. Et quand ils en plaignaient, je disais, mais vous, là, les gens s'endorment. Alors, il faut absolument pas. Il y avait des choses très drôles entre nous, par exemple, un jour, dans un... Oui, je crois que c'est dans La Vie secrète, il dit, les arpenteurs ne bandent pas. Je dis, écoutez, cher Dali, je ne sais pas véritablement, mais si le syndicat des arpenteurs lit ça, vous aurez des ennuis, c'est-à-dire que les arpenteurs n'achèteront pas votre livre et nous perdrons beaucoup d'argent. Là. Alors, ils disent, bon, bah, alors, que supprimons ça. Vous voyez
Non, vous oubliez la réponse. Il dit, alors, disons que les arpenteurs bandent peu.
Mais oui, finalement, j'ai mis qu'on ne parlerait pas des arpenteurs et de leurs possibilités. Il y avait plein de choses comme ça qui étaient très amusantes et très gaies, qui fait que très souvent, alors à Cadacas, quand nous percions les nuits, quand c'était à Paris, il y avait toujours des gens qui voulaient entrer, téléphoner, et qui voulaient lui faire signer des livres. Tout ça, c'était pas commode du tout. Il habitait l'hôtel Meurice, et j'arrivais pas à faire fermer la porte du petit salon où nous nous retrouvions. Mais c'est à Cadacas que je l'ai le mieux connu, c'est à Cadacas que, enfin, Paul Ligat, que je l'ai mieux connu, et c'est là que nous avons travaillé vraiment très bien, surtout au Journal d'un génie.
Alors, nous allons reprendre dans quelques minutes, nous faisons une toute petite pause, et nous reprenons Salvador Dali, vu par Michel Déon, vu par Salvador Dali, vu par Michel Déon. À tout à l'heure. Michel Déon, nous allons reprendre donc au plaisir d'insolence. Nous faisons plaisir en parlant de Salvador Dali. Et de ce que vous dites qu'il avait un peu une complaisance diaraïque, ce que je trouve un merveilleux terme d'écrivain, une complaisance diaraïque. Vous aviez l'air d'apprécier, au fond, cette complaisance diarrhéique.
Oui, oui, ça, je pouvais. Ce n'était pas toujours facile de l'arrêter, à la fois dans ce qu'il écrivait, et puis dans la conversation. Tout d'un coup, ça passait, ça partait, c'était irrésistible, c'était un torrent. Et c'est un torrent de mots, c'est de la logodiarrhée, enfin bon, le mot est parfaitement régulier. Je lui ai supprimé des choses, avec son accord entièrement. Oui. Et il m'a toujours remercié. Et je vais vous dire une chose, c'est que toutes les éditions dans le monde entier qui ont été faites d'après l'adaptation française, elles sont faites d'après l'adaptation française et pas d'après l'édition américaine, et qui est complète, qui fait 600 pages, un livre absolument merveilleux aussi.
Oui, mais qui a fait 1000 exemplaires, je
mais
crois.
Mais on ne peut pas lire, on ne peut pas lire, c'est trop. La traduction avait
mais c'est un autre livre, au fond. Parce que c'est ça qu'on n'arrive pas bien à déterminer dans ce bouquin. C'est-à-dire que... Alors le bouquin, je dois dire que nous parlons en ce moment d'un livre absolument incroyable, parce que pour ceux qui prennent l'émission en route, qui est Salvador Dalí, Les Spoutniks du Pauvre, et on va dire pourquoi Le Spoutnik du Pauvre, quoi. Et qui est aux éditions de la Table Ronde, hein, et mis en forme, si je puis dire, par Alice Déon. Dans cette logorée diarrhéique, donc, on ne voit pas bien le rôle de l'anglais, de la version anglaise et de la version française. La version anglaise, on vous demande de la traduire, mais en fait, vous avez fait un autre livre avec lui.
Ah oui, mais lui, il écrivait en français. Hein.
Oui. Vous avez retraduit de lui.
Oui, j'ai adapté de lui.
Voilà, c'est
pas
ça.
Pas retraduit, adapté de lui. Et j'avais très bien le français. Hein.
Et lui-même a écrit le journal, pour être clair, le journal d'un génie s'inspire de vos conversations.
Oui, il y avait des choses écrites par lui dans un grand registre qui ressemblait à un registre comptable qui était très belle, très intéressante. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est le moment, il faut absolument le publier. Ça, c'est vraiment très, très bien. Ça va avoir un très gros succès. J'ai ajouté quelques petites choses qui étaient anciennes et qui rappelaient des conversations que nous avons eues. Je lui ai demandé, par exemple, il y avait une année où il n'y avait pas de journal, où nous n'étions pas vus. Et j'ai mis dans le livre, pendant l'année 1954-55, Dalí médite et il n'écrira pas. Puis on passait à l'année suivante. Donc, on a donné tout le temps ce ton et cette liberté au journal d'un génie. Et il m'a fait pour chaque dessin, dans l'édition originale qui est apparue à la Table Ronde, une signature. Et 20 signatures différentes. C'est très amusant de sa part. Oui.
Alors, il vous dit souvent que, bon, d'accord, vous pouvez supprimer des choses, mais il veut remettre dedans des minuties exaspérantes, dit-il. Alors ça, c'est vrai son style. C'est-à-dire que quand il parlait en public, on se rappelle qu'il parlait de choses qui étaient des minuties exaspérantes, ce qui est assez bien vu.
Oui, il pouvait passer pendant un quart d'heure raconter comment une fourmi mangeait un morceau de fromage. Alors c'était ça, les minuties exaspérantes.
Ah, écoutez, j'ai un exemple là quand même, qui est le passage qui donne son titre au livre du Spoutnik. Oui. Hein, je vais en lire le début, vous en lirez peut-être la fin. Parce qu'on a comme ça une idée.
Mais je crois qu'il faut expliquer, parce que je ne suis pas très sûr. Par exemple, que les gens, aujourd'hui, savent ce qu'est un Spoutnik. Spoutnik, c'est quand même le premier engin spatial emportant un homme qui a fait le tour de la Terre. Et ça l'amusait beaucoup. Et l'idée, pour lui, l'idée du Spoutnik du pauvre, c'était pour se débarrasser des ordures ménagères comme des déchets nucléaires, on les envoie dans l'espace avec... un satellite, enfin, qui quitte la Terre et qui se perd dans l'infini. Donc, voilà. Alors, mais qui va-t-on mettre au départ pour habiter ce Spoutnik et s'en occuper un petit peu? C'était, on prenait un pauvre, un nain, n'est-ce pas, malheureux.
Bon, un cul-de-jatte.
Un cul-de-jatte. D'abord, c'est laisser de la place pour mettre les ordures. Et ensuite, c'était pas une perte pour l'humanité.
Alors, voilà, oui, c'est le pitch, comme on dit aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous savez que c'était prémonitoire, puisqu'il y a aujourd'hui un film de Walt Disney où il y a un petit robot qui tombe amoureux d'une petite robote et tous les deux s'occupent des ordures sur la Terre. Alors ça, c'est l'inverse, au fond, puisque maintenant, les ordures dans l'espace, il y en a plein qui vont nous tomber sur la tête. Donc, Dalí était prémonitoire. Hein, c'est vraiment le problème à la fois des ordures et de l'espace. Alors, voilà comment le Spoutnik. Alors, ce Spoutnik-là, celui-là, vous avez failli l'adapter. Et vous avez perdu deux fois le...
C'est pas moi qui l'ai perdu, c'est l'éditeur qui était prêt à le publier, qui l'a perdu. Et ben, moi, j'ai repris le manuscrit, heureusement. J'ai repris, mais qui a perdu mon travail sur le Spoutnik de Pau. Et à ce moment-là, bon...
Vous en avez eu assez ?
J'en ai eu assez, j'avais fait beaucoup avec Dali. Pour ça, je restais très ami avec lui. Mais vraiment, j'avais pas tellement envie, j'avais autre chose à faire.
Donc c'est un monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste Gendarme, qui est un jeune auteur, je crois.
Un jeune romancier, oui.
Donc j'ai cru que c'était un pseudonyme parce que s'appelait Gendarme pour s'occuper de Dali, c'était, ça aurait fait rire Dali. Mais Jean-Baptiste Gendarme est un auteur tout ce qu'il y a de plus sérieux, qui est chez Gallimard, je crois.
Oui, oui.
Par ailleurs. Alors, donc, le début de notre Spoutnik du pauvre, les Spoutnik du pauvre, c'est « Olé, tu es belle parce que tes yeux sont plus grands que tes pieds », lui avait dit à son passage un jeune Andalou. Pourtant, elle avait de grands pieds propres, parfait archétype de la géante. L'aréole de ses seins était proéminente et érectile, si bien que leur forme se prononçait clairement à travers ses corsages noirs. On imaginait pouvoir composer un numéro de téléphone en faisant tourner son aréole avec le doigt, comme l'on compose les numéros sur un cadran téléphonique. Elle était possédée par une psychose maniaque convulsive de propreté qui la contraignait à laver sans cesse chaque recoin de son ample corps et à faire briller sauvagement, on imagine l'accent de Dali, briller sauvagement tout ce qui l'entourait. C'est ainsi qu'elle était la femme de ménage par excellence, celle que tout le monde s'arrachait, le seul être capable de faire disparaître comme en une seule bouchée, l'horreur des horreurs, le plus ignominieusement abominable, les apothéotiques tas d'ordures innommables, que seul l'être humain a la faculté et le privilège d'ériger au nucléus de certaines maisons méditerranéennes où règnent des désordres viscéraux et apothéotiques. Voilà, alors, voilà la fin maintenant. Voilà donc notre pauvre qui meurt, parce que alors elle le met, elle fait le... Ah oui, quand même, faut le dire. Alors elle le met sur la cheminée pour ripolliner tout. Elle essuie sa vaisselle sur la poitrine du pauvre qui devient tout sale et tout gras. Donc elle le rince et le l'étrille, parce que sa manie, évidemment, c'est de salir d'abord pour laver ensuite, ce qui est bien normal. Et donc, voilà le pauvre qui va être lancé dans l'espace.
Le 25 août, journée torride. Elle rentra après 4 jours d'absence et trouva son pauvre mort. Il avait pour la première fois les yeux ouverts, mais noirs de fourmis. Il commençait à bouger. Il lui apparut comme un de ces bonbons au chocolat fondant avec du blanc à l'intérieur. Le blanc aurait été les asticots. Jamais dans un endroit aussi astiqué on n'avait vu tant d'asticots. Ses aréoles étaient érectées en prévision de quelque chose de sublimement abominable, car elle semblait s'apprêter à laver l'inlavable, astiquer l'inasticable. C'était ce moment où l'irrationalité lui commandait de faire disparaître tout cela viscéralement, faute de pouvoir remplir les Spoutnik avec les asticots de son pauvre, truffant ainsi l'espace de ses restes. Seul Dieu pouvait intervenir, et il intervint comme toujours dans ces moments de pitié cosmique avec le miracle de la guérison, car à ce moment-là, on aurait dû encore attendre les services des psychopathologues.
Donc, voilà la chose. Et tout cela est dans ce livre, parce que tout cela est dans le même livre, tout ce dont on vient vous parler, qui a l'air foldingue, parce que ça a l'air de 10 livres en un, est en fait un livre tout à fait... Mais alors qui a plusieurs entrées, comme on dit aujourd'hui. C'est un peu, vous savez, chez les enfants, il y a le livre dont vous fabriquez l'histoire tout seul, vous allez à la page temps, etc. Et c'est un peu un livre comme ça, c'est-à-dire vous prenez de Déon, de Dali, même de Laudenbach, ce que vous voulez, parce qu'il y a un très beau rapport de lecture de Laudenbach. Je ne sais pas si je le trouve tout de suite.
Roland Laudenbach était le directeur de la maison de la Table Ronde.
Alors, vous dites un mot quand même de cette Table Ronde, parce que les éditions de la Table Ronde sont des éditions légendaires et dont on raconte fort peu l'histoire qui est liée à celle des hussards dont vous êtes, qui est liée à beaucoup de choses.
Mais il y a eu un livre déjà sur la Table Ronde. Il y a déjà
qui
est
de
un...
qui
oh, c'est un étudiant qui a transformé sa thèse, et qui a... j'ai oublié son nom, mais c'est très bien fait. Enfin, c'est très bien raconté, c'est l'histoire de la création d'une maison d'édition juste à la fin de la guerre, on est dans l'année 44, par Roland Laudenbach, qui était le neveu de Pierre Freinet, et qui donc, grâce d'ailleurs à cette parenté avec Freinet, était introduit dans une quantité de milieux, était très ami de Cocteau, de Giraudoux, de beaucoup d'autres, de Thierry Mounier aussi notamment, et qui a eu l'idée de fonder une maison d'édition. À un moment extrêmement difficile, à un moment où on pensait à tout à fait autre chose. Et cette maison d'édition, après, dès le départ, une tournure très, je dirais pas anarchique, mais très, très ouverte, très attentive à tout ce qui était nouveau, et pas attentive du tout à la mode.
Et alors, celle-là n'était vraiment pas politiquement correcte. L'insolence était au pouvoir.
Non, l'insolence...
Chez vous, je veux dire.
Mais bon.
À la table ronde,
Mais pas systématiquement, ce serait faux de dire ça.
La liberté était au pouvoir.
Une grande liberté, et surtout un mélange... complet de toutes les tendances politiques ou autres. Puisqu'un des premiers auteurs, c'était Pierre Hervé, rédacteur en chef de l'Humanité, et qu'un autre, c'était Maurice Bardèche, le beau-frère de Brasillac. Vous voyez qu'il n'y avait pas de cloison.
Eh bien déjà, quelle insolence. Alors, je voudrais simplement l'extrait du rapport de Roland Laudenbach, donc sur la vie secrète de Salvador Dali, rapport de lecture, hein, qui donne le ton de l'époque et le ton de liberté, justement, dont nous parlons. Et dont, qui reste un souvenir pieux aujourd'hui ou impie. J'ai lu les mémoires de Dali dans la traduction moldo-valaque qui nous a été proposée. Pour qu'un texte en dépit de longueur résiste à un pareil traitement, il faut qu'il comporte de nombreux et de riches attraits. Il y a des folies dans ce livre et aussi sans doute de nombreuses impostures, mais aussi un accent de sincérité indéniable. Alors ça, c'est extraordinaire parce que ça veut dire qu'il y avait des éditeurs qui, derrière ce qu'ils lisaient, lisaient le talent et le détectaient encore. C'est pour ça que je voudrais rendre hommage quand même à Roland Laudenbach parce que c'était un des éditeurs dont il n'existe plus beaucoup d'exemplaires aujourd'hui. Et enfin, je voudrais aussi, nous allons faire une toute petite pause, et juste après, j'aimerais que vous lisiez des extraits de votre prière d'insérer de la vie secrète de Salvador Dali, que vous publiez là, hein, qui est publié en photo ici, et qui est très touchante, je trouve, et très intéressante pour ce petit... Parce que vous dites à un moment donné que, au fond, c'est toujours resté le fils du notaire de Figueras. Mais ça, on en reparle juste après la pause.
La figure de Napoléon Bonaparte dans l'œuvre de Sacha Guitry. Jean Tullard, historien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, vous donne les codes de représentation de ce personnage historique dans l'œuvre du cinéaste au cours d'une émission Carrefour des Arts. Téléchargez dès maintenant cette émission sur canalacademie.com.
Au plaisir d'insolence, Michel Déon qui nous parle du livre de Salvador Dali, Les Spoutniks du Pauvre, paru à la table ronde sous la houlette de sa fille Alice Déon. Alors, à un moment donné, vous nous décrivez Salvador Dali tel qu'il est, avec l'impression des débuts, et je crois qu'elle est restée la même aussi, avec tout ce que vous dites d'élogieux et d'affectueux à son égard. Vous en parlez, alors sa moustache déjà inquiétante à New York était encore montée de 2 ou 3 centimètres. À part ce détail naïvement agressif, il était on ne peut plus correct dans un costume bleu marine étriqué comme après un lavage, avec des manchettes et un col empesé, un bijou biscornu épinglé dans sa cravate en lamé. Il resterait toujours le fils du notaire de Figueras. Il serait toujours courci, mot intraduisible en français que les Espagnols de bon ton appliquent aux parvenus surhabillés. Ce soin de sa personne émouvait, encore l'émotion, chez un personnage qui avait montré si peu de respect pour les conventions. Alors donc vous avez toujours cette tendresse pour ce Dali, avec lequel vous m'avez dit à un autre moment vous avez empâté au fond. Il y a une espèce d'empathie qui s'est produite ou
oui,
pas.
Comme pour un rôle. Non, c'est une affinité, je dirais, plutôt qu'empathie qui fait un peu savant. Non, il y avait une affinité entre lui et moi, assez étrange. Et d'ailleurs, c'est sa rencontre qui vous rend comme ça. C'est un être avec lequel on devient différent tout d'un coup, parce que, non pas qu'il ait une influence sur vous, mais parce qu'il vous fait découvrir un monde psychologique entièrement différent. Et il ne le fait pas découvrir par l'intermédiaire d'un tableau ou d'un livre, il le fait par sa personne même.
Est-ce que ça a changé votre écriture à ce moment-là ?
Oh non, ça n'a pas changé mon écriture. Mon écriture était, disons, déjà plus ou moins faite. Enfin.
Mais l'écriture de ce que vous écriviez de lui ?
De lui, je ne crois pas. Je crois que je suis toujours resté dans mon ton à moi quand j'ai parlé de lui. À peu de choses près, peut-être quelquefois j'ai exagéré les choses comme ça, comme on fait un clin d'œil, vous comprenez. Mais autrement, non, je suis resté moi, et puis quand j'étais avec lui, c'est une chose tout à fait différente. On se dédouble assez facilement en écrivain, on peut devenir pasticheur, et les pasticheurs, de grands pasticheurs comme Jean-Louis Curtis, par exemple, c'est quelqu'un qui pouvait écrire un livre à la manière de Julien Green, et puis le lendemain à la manière de Anatole France. Bon, ça c'était un véritable génie du pastiche, Jean-Louis Curtis. Mais là, moi je ne suis pas un génie du pastiche, mais là je me suis trouvé avec quelqu'un dans le jeu duquel j'entrais. Et j'entrais avec plaisir, et en même temps il me libérait peut-être un petit peu aussi de quelques conventions que je gardais d'une éducation plutôt un peu sévère dans mon enfance et peut-être dans mon adolescence, brutalement arrêtée par la déclaration de guerre et l'habit du soldat. Et là, vous voulez que
alors,
je vous lise...
Alors, oui, je vous tends pendant ce temps-là le prière d'insérer, parce que je trouve que ce qui résume le mieux votre... si on veut avoir un mot de la fin, eh bien, le mot de la fin, c'est le prière d'insérer, voilà.
Je veux dire que c'est les prières d'insérer, ça demande quelquefois un petit coup magique. Il y en a qu'on réussit, l'autre qu'on peut... On peut passer 3 jours pour écrire 10 lignes sur un livre sans arriver à les trouver. Et puis là, je sais que c'est une des prières d'insérer que j'ai réussi. Et je crois qu'elle est assez exacte. Je vais essayer de la lire de façon intelligible. Suis-je un génie ? À cette question posée en tête de son livre, Salvador Dali répond en 300 pages. Pour lui, cela ne fait plus de doute depuis son enfance. Il a eu jusqu'au vertige la conscience de son génie. C'est, paraît-il, un sentiment intime très réconfortant. Ses parents l'ont prénommé Salvador parce qu'il était destiné à être le sauveur de la peinture menacée de mort par l'art abstrait, le surréalisme, conformiste, le dadaïsme et en général tous les ismes anarchiques issus de la Première Guerre mondiale.
Alors là, je vous arrête une seconde parce que c'est vous qui m'avez révélé finalement que tous ces ismes et ces istes qui nous pourrissent la vie sont nés vers cette époque de la Première Guerre mondiale. Est-ce vrai ?
Oui, certainement. Oui. C'est à partir, peut-être d'après le futurisme, qui était l'invention de Marinetti, qui était le vrai départ du mouvement surréaliste en Europe. Marinetti, en 1912, a lancé le futurisme avec les moyens, il avait des grands moyens personnels. Il a lancé ce mouvement excessif, naturellement, mais extrêmement intéressant et qui a déclenché dans toute l'Europe. D'abord la Belgique, qui a été la première, seconde patrie du surréalisme, et puis ensuite la France, où Marinetti est venu vivre en grande partie à ce moment-là et soutenir son mouvement.
Il y avait le communisme qui existait déjà
non,
dans les
là, nous parlons de littérature, d'idées, de peinture,
voilà.
Parlons pas du tout de communisme. Mais je crois que ce sont ces mouvements littéraires, ce besoin d'exploser, ce besoin de renverser, d'insulter un peu les parents, d'être les enfants terribles du siècle. Il y a eu beaucoup de ismes très différents. Le surréalisme et le dadaïsme, ce n'est pas du tout la même chose. Il ne faut pas les confondre. Le futurisme et le dadaïsme non plus, ce n'est pas du tout la même chose. Donc voilà, on se retrouve avec des ismes qui sont très agaçants et qu'il faut toujours rejeter autant que possible.
Alors, continuons le prière d'insérer, oui.
Le premier Dali réclame l'honneur de retrouver la tradition, mais après avoir expérimenté lui-même toutes les tentatives désordonnées de son temps. Ces étapes, il les a parcourues à une allure foudroyante, rejoignant d'un bond le surréalisme, le personnifiant un court instant, le dépassant ensuite d'un autre bond pour aboutir des montres molles, c'est un tableau très célèbre, oui, à ces deux chefs-d'œuvre contemporains que sont la Madone de Portlligat et le Christ d'après saint Jean de la Croix. Et ça, c'est très important, c'est en effet le tournant où Dali a marqué son retour. Il ne l'avait jamais vraiment quitté au catholicisme. Et le catholicisme espagnol, c'est un catholicisme dur et conquérant.
Il y a eu la guerre civile pour le montrer aussi, oui.
Alors ce livre, La vie secrète, est un monument élevé par Salvador Dali à sa propre gloire. Et si toute modestie en est absente, en revanche, sa sincérité est brûlante. L'auteur s'y dépouille de ses secrets avec une impudeur insolente, un humour débridé, une cocasserie étincelante. La vie secrète est aussi un roman d'amour, le roman de Gala et de Salvador Dali, et un hymne à la splendeur de la tradition, de la hiérarchie catholique et de la monarchie. C'est dire combien, de nos jours, ces pages paraîtront subversives. Les adversaires de Dali épuiseront leurs petits arguments. L'auteur s'en moque, puisque sa peinture répond pour lui. Les admirateurs de Dali découvriront au contraire ce qui fait la grandeur profonde de ce Catalan, parti à la conquête du monde et luttant seul contre les forces obscures de l'informe et du nihilisme. On ne s'étonnera pas non plus que cet œil infaillible de peintre ait su voir, noter, retenir et faire revivre pour nous le monde qui l'entourait, le snobisme dont il se gorge, l'ambition qui le dévore. Une vie fulgurante dont nous avons pourtant l'impression qu'elle ne fait que commencer.
Voilà une des vraiment très belles pages de Michel Déon aussi. C'est pour ça que je voulais que vous le lisiez, parce que c'est vrai que vous étiez inspiré, hein, que ça vous a inspiré une page absolument magnifique, sûrement sur des affinités profondes aussi dans toute l'attitude. Alors finalement, ce livre, vous le considérez, c'est ça qui m'a plu dès qu'on a parlé de ce livre et que dès que je l'ai vu, j'ai compris votre jubilation. Voilà, le mot est jubilation. Vous m'en avez parlé avec jubilation, ce qui est relativement rare. Quand je vous ai demandé pour qui vous auriez un coup de cœur, vous m'avez tout de suite parlé de ce bouquin. Et en effet, écoutez, c'est un bouquin dont ton lecteur partage la jubilation. Enfin, moi, du moins, j'ai découvert un univers, et alors qui est un univers vraiment, vraiment, vraiment presque sensuel. C'est-à-dire qu'à travers ce bouquin, on découvre une vraie vie. C'est-à-dire que le papier est beau, c'est le plaisir du lecteur vraiment, parce qu'on découvre ce qu'on ne découvre plus beaucoup dans des bouquins. C'est-à-dire la forme corresponde au fond. Voilà. C'est un des beaux, beaux, beaux compliments qu'on peut faire à l'éditeur, parce que rarement des beaux livres d'éditeur. Voilà. Donc, Salvador Dali, Les Spoutniks du Pauvre, suivi
Je crois qu'il faudrait dire le Spoutnik du Pauvre.
Oh, ça me fait plaisir, mais c'est marqué comme ça. Hein. Alors bref, le Spoutnik du pauvre, en rappelant que le Spoutnik, c'est une chose qui va dans l'espace, hein, et que le pauvre est plutôt rigolo dans l'histoire aussi. Donc c'est pas du tout politiquement correct cette histoire. À la table ronde, qui vient de sortir, et que je vous conseille de toutes mes forces, parce que vous lirez du merveilleux Michel Déon insoupçonné. Merci Michel Déon.
Merci beaucoup.
Et à bientôt, j'espère.
Oui, il faut attendre un peu.
Voilà, c'était donc Au plaisir d'insolence, l'émission qui a pris ô combien le temps de parler littérature et d'un auteur qu'on ne connaît pas toujours, Salvador Dali.